plus et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Des rondes, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
C'est l'histoire fausse d'un petit garçon, Barnabé, dit le Bab, qui s'est levé bien plus tôt qu'à l'accoutumée. Normal, c'est Noël, et la marmaille est particulièrement excitée. À Noël, elle attend ses cadeaux. Sur le sapin décoré de boules rouges et noires, un A lumineux clignote. Au pied du sapin, une crèche, avec le petit Marius dans le couffin de paille sur lequel se penchent attendri, Proudhon, Stirner et Bakounine. Notre histoire fausse se passe en anarchie dans un temps, futur et beau comme une utopie créative, où les frontières ont été abolies, les gouvernements détruits, l'argent et les inégalités éradiquées. Le Bab a chaud et il fait froid. On devrait faire Noël à poil et en été, nom d'une pince monseigneur. Le Bab a aperçu, avec un seul P, le sapin qui clignote. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Comme une marmite à remboursement. Il ne sait pas pourquoi, mais il s'en fout, mais il s'est mis à courir en criant. En fait, il sait pourquoi. Il a vu les paquets. Et dans les paquets, il y en a un avec marqué dessus « Monsieur Bab ». Et il a vu le paquet, lui, œil de lynx qui voit tout. C'est l'histoire vraie d'un gamin de Marseille, il y a fort longtemps. Une belle époque ? Pas vraiment. Le gamin voulait voir le monde sur les bateaux de la compagnie des messageries maritimes et il s'est aperçu, avec un P, qu'il n'était pas beau, le monde. Le monde avec un petit M. C'est l'histoire vraie d'un gamin qui, devenu grand, anarchiste et révolutionnaire, a voulu faire sa révolution. Celle par l'éventrement des coffres-forts, par le vol et la redistribution. C'est l'histoire vraie d'un honnête cambrioleur qui va payer très cher ses atteintes à la propriété. C'est l'histoire vraie d'Alexandre Marius Jacob, 1879-1954. Vienne l'anarchie.
Marseille, vers 1880.
Bon, t'as fini, on peut jouer maintenant ?
Bon, d'accord, le Bab, c'est parti. Allez, ça commence.
Non, en vrai ?
À ton avis. Bon.
Et elle commence par « Il était une fois, ton histoire ? »
Bon, on s'en moque un peu, non ?
Bon, alors tu racontes ?
Ok. Il était une fois, à Marseille...
C'est où ?
Bon. Tu vois sur la carte ? Mon doigt. Il est sur Marseille, sud-est, le midi de la France, la mer. T'as installé le décor ?
Un port, des bateaux.
Ouais, des tas de bateaux, et des jacobiles.
Beaucoup ?
Ah, plein de jacobiles. Et toutes les couleurs, Marseille est une ville cosmopolite.
Quoi ?
Bah, une ville où il y a plein de gens, et plein de gens de toutes les nationalités. Des Suisses, des Grecs, des Espagnols, beaucoup d'Italiens aussi. Tous viennent attirés par la richesse de la cité qui s'industrialise et qui commerce avec le monde entier.
Et Jacob, c'est un étranger ?
C'est important.
Je sais pas, moi, c'est toi qui raconte après tout.
Facile, le bab, facile. Bon, écoute, maintenant. Un port, des bateaux, une foule. Marseille est à la fin du 19e siècle une ville florissante, une ville attirante. Explosion urbaine. 313 000 habitants en 1872, 348 000 9 ans plus tard. Prospérité maritime. Les vapeurs des compagnies Fraissinet, Cyprien Fabre ou encore des messageries maritimes sillonnent la Méditerranée et parcourent toutes les autres mers du monde. De fait, tous les produits, toutes les nations se retrouvent dans cette métropole qui ne cesse de s'étendre. Propriété industrielle, prospérité industrielle, la bourgeoisie du négoce a investi et s'est enrichie dans l'huile, le savon, le sucre, les pâtes alimentaires et l'alcool anisé. Dans la banque aussi. Et les Rostands, les Rastoins, les Roca, les Magnan, les Roux, les Tassy, les Barthélémy affichent leur fortune dans un espace urbain au développement anarchique. Là s'inscrit la confrontation sociale avec la masse prolétarisée courbant les chines et suant sa faim et sa misère dans les usines et sur les docks. La ville s'est haussmannisée. Des boulevards où ont fleuri des immeubles de style monumental la traversent de part en part. Les grosses fortunes ont conquis la corniche et les beaux quartiers du sud s'opposent à ceux nettement plus populaires et insalubres du centre et du nord. Marseille est une ville riche à population pauvre, ouvrière, immigrée. Les Italiens représentent à eux seuls 16% de la population totale vers 1880, ou bien alors elle est issue d'un exode rural massif. L'essor économique marseillais ne suffit pas à offrir du travail aux nouveaux arrivants venus en nombre. 10 000 chômeurs en 1884 et des salaires bas, très bas, de plus en plus bas. La paupérisation engendre des rapports sociaux âpres et durs. Marseille est un laboratoire politique et social, une ville où bouillonnent les théories socialistes. La commune, en 1871, y a laissé une empreinte de sang, mais une cinquantaine de morts, 150 blessés environ et quelques 800 arrestations n'ont pas fait taire la lutte des classes, même si, à l'image de Paris ou de Lyon, la ville est en état de siège au moins jusqu'en 1876. Le congrès ouvrier et socialiste de Marseille, du 2 au 30 octobre 1879, le retour des communards après l'amnistie de 1880, marque de fait un renouveau du mouvement ouvrier. 1883, le port de Marseille est bloqué pendant 20 jours. 18 000 ouvriers cessent le travail. L'année suivante est créée l'Union des chambres syndicales ouvrières, puis en 1888, la Bourse du Travail. Dans ce foisonnement de socialisme marseillais, l'anarchisme apparaît comme particulièrement dynamique. Le climat social et politique est forcément marquant pour un petit enfant qui a les yeux grands ouverts sur un monde qui n'est pas celui des Santons de Provence et encore moins celui des contes de fées. Oh, le bab, là, tu suis ou quoi, là ?
Ouais, une grosse ville, des gros bourgeois et des ouvriers venus de partout.
Bon, d'accord, j'ai rien dit.
Et t'as pas répondu à ma question.
Ta question ?
Tu suis ou quoi ?
Très drôle. Quelle question ?
T'as dit cosmopolite tout à l'heure.
Cosmopolite. Et alors ?
Alors, Jacob, ça fait pas très marseillais, quand même.
Oui et non, en fait.
Allez, explique pendant que je mets mon mini Jacobile dans la crèche.
Bon, les Jacobs viennent d'Alsace. C'est la choucroute, le Riesling...
L'Alsace, c'est l'Allemagne à l'époque, non ?
Bah oui, de 1871 à 1914, oui. Mais les Jacobs sont partis bien avant.
Et Alexandre Jacob est né à Marseille le...
Oh, c'est qui raconte ?
Eh, on dit pas c'est qui.
Oh, tu me fatigues. Bon, je continue. Alexandre Jacob est né à Marseille le 28 septembre 1879 à 19h au numéro 29 de la rue Navarin. Le petit fait la fierté de Joseph Léon Jacob, son père, et de Marie-Élisabeth, sa mère, une fille Berthoux. Ils se sont mariés le 18 septembre, 10 jours avant sa naissance. Évitez le scandale. Les filles mères sont très mal vues. Pas de bâtard, hein, même dans une famille de boulangers. Joseph a 23 ans, ce n'est pas un gars du pays. Ses parents, André Jacob et Catherine Erkschafter, avaient quitté leur Alsace natale pour trouver une vie meilleure dans le sud où se construisait la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille. Le vin de Ribeauvillé ne nourrit pas son homme, et encore moins sa femme et ses enfants, lorsque l'on vient d'une famille nombreuse. La terre se partage pas. En Alsace, comme un peu partout ailleurs, Elle n'enrichit que quelques-uns et fait crever de faim et de misère les autres. C'est donc sous le soleil du midi, à Avignon, que naquit Joseph le 11 septembre 1856. Puis, la transhumance a continué pour les Jacob et ils s'installèrent à Marseille. Marie-Élisabeth Berthoux est née à Lacroix, dans le Var, le 8 juillet 1860. Ses parents tiennent en 1879 une boulangerie au 13, boulevard Saint-Charles à Marseille. Elle est encore mineure lorsqu'elle se marie et accouche d'Alexandre. Avant que le jeune couple ne reprenne la boulangerie familiale, Joseph a voyagé à travers le monde, mais en est revenu alcoolique.
Mes parents étaient de petits commerçants. Ouvrier boulanger, mon père travailla pour des patrons, puis fut patron à son tour. Dans sa jeunesse, il navigua comme novice. Marié, il navigua comme boulanger à la compagnie Cyprien Fabre, puis aux messageries maritimes. Cette dernière navigation fut sa perte. À Port Saïd, la caisse de bouteilles de Pernod's Fils à 72 degrés se payait par exportation 48 francs, emballage perdu. Il y prit goût et sombra dans l'alcoolisme.
Bon, néanmoins, s'il rapporte de ses voyages un penchant pour la dive bouteille, il ne fait pas de doute que ses récits de voyage vont nourrir l'imagination d'Alexandre. Après avoir vécu 3 ans rue Navarin, la petite famille que rejoint Catherine, la mère de Joseph, après le décès de son mari, change souvent d'adresse. 69 chemin Saint-Marthe, 13 boulevard Gilly, 15 rue Saint-Martin, 9 rue d'Aubagne, puis en 1897, 47 rue Fontaine-Rouvière et enfin, impasse Amédée-Autran. Tous ces logements se trouvent dans les quartiers populaires et cosmopolites de la ville. Alexandre Jacob côtoie la pauvreté et la misère sociale, mais comme il l'écrira bien des années plus tard, sa prime enfance fut heureuse. Et pour cause. 3 autres petits mâles, André, Toussaint et Joseph, ont suivi leur frère aîné, mais tous décèdent avant leur premier anniversaire. Alexandre Marius est ainsi l'objet unique de l'attention de ses parents, qui peuvent que s'émerveiller devant son imagination galopante. Un jour, son père lui ramène une chèvre du Dahomey, où la compagnie Cyprien Fabre a des comptoirs, et le minot raconte à tous ses copains qu'il s'agit d'un tigre. Et les copains défilent dans l'appartement aux grandes dames de ses parents pour voir la bête fauve. Dès 6 ans, Joseph et Marie l'emmènent au théâtre du Gymnase. On y joue de l'opérette et des pièces de boulevard. Le petit connaît son répertoire populaire. La Biche, Phédos, Scribe, Courteline, etc. C'est un gamin cultivé. Peu turbulent et porté sur la lecture, Alexandre Jacob lit et relit Jules Verne, quand il n'use pas ses habits sur les bancs des frères des écoles chrétiennes de Marseille. Bien que Joseph semble afficher un certain anticléricalisme, il n'y a rien d'étonnant à ce que la famille Jacob applique à son rejeton le modèle éducatif dominant de l'époque. Faire de son enfant quelqu'un, ne pas lui laisser en héritage les affres de sa propre condition, c'est ce qui conduit le jeune Alexandre à fréquenter une école catholique à un moment où les lois Ferry de 81 et 82 n'ont pas encore changé radicalement le paysage scolaire français. L'Église imprègne toujours sa marque sur l'éducation des jeunes têtes blondes, mais le Pitchoun semble plus réceptif aux récits des pays lointains donnés par les missionnaires qui visitent l'école qu'au prosélytisme prodigué dans les locaux de l'institution religieuse et scolaire.
À 9 ans, j'étais enfant de cœur à l'église alsacienne de la rue des Vertus. Bon, je savais manipuler l'encensoir, répondre à la messe pour teinter la clochette à l'élévation, mais sans conviction religieuse. Je prenais cela pour une distraction. 10 ou 11 ans plus tard, je cambriolais la sacristie. Maigre butin.
Esprit vif et curieux, il obtient, sans difficulté apparente, mais sans gloire non plus, le certificat d'études en 1890. Mention passable. Alexandre Jacob a 11 ans. Il laisse tomber l'école. Le temps de l'enfance est terminé. Le monde peut s'ouvrir à lui. Mais il est aux antipodes de ses romans d'aventure.
Il a dû voir des tas de choses sur les bateaux.
Bah, c'est pas si glorieux que ça, hein, les histoires de marins.
Bah, des 3 mâts en plus.
Et on est autour de 1890, hein, la voile c'est fini, hein, ou presque. Place aux vapeurs maintenant, hein, avec du charbon.
Et la piraterie alors?
Il y en a.
Et les pays lointains?
Il y en a aussi.
Bah, la vue des tas de choses, c'est bien ce que je me disais, hein.
Ouais, la vue le monde, quoi. Un conte de fées, pas vraiment. Encore que cela commence par une journée pas si ordinaire que cela. 1890, nous sommes à la veille de Noël dans le quartier de la Canebière. Le vieux port n'est pas très loin. Ça grouille de monde, de marins. L'enfant joue aux billes, place Saint-Michel, alors que la populace s'active pour les festivités à venir. Ça grouille de monde et de marins, mais il s'en fiche, il joue aux billes. Il n'a pas vu le monsieur s'approcher de lui, et il sursaute quand sa grosse voix lui demande de l'aide. La peur qu'il a eue. Porter des paquets rue de Lodi ? Bon, c'est à deux pas de son terrain de jeu. Il dit pas non au capitaine Martineau. Il ne dit pas non parce qu'il a entendu le mot capitaine quand le monsieur s'est présenté. Capitaine. Capitaine d'armement pour la compagnie de navigation Fraissinet. Il n'en faut pas plus à un minot pour actionner la machine à rêve. L'île au trésor, la crique du capitaine, les 40e rugissant, Nemo. Ça souffle dur dans sa petite tête. Tout naturellement, Alexandre, les bras chargés de paquets, répond à la question du capitaine Martineau qui, chemin faisant, lui fait la conversation. C'est sorti comme ça, d'un coup, comme une évidence. Sais-tu ce que tu veux faire plus tard, mon garçon ?
Je voudrais être navigateur, comme mon père.
Il a dû être vachement convaincant, le gamin, parce qu'une fois arrivé chez lui, le capitaine Martineau lui donne sa carte et un rendez-vous. Un rendez-vous avec un capitaine. À lui et à ses parents, dans son bureau à la compagnie Fraissinet. Il a dû être vachement convaincant, le capitaine, parce que 29 jours plus tard, le petit garçon qui jouait aux billes embarque à bord du Tibet. Nous sommes le 22 janvier 1891 et Alexandre Jacob n'est pas peu fier. Il est mousse, mais son intégration dans le corps des marins ne tient pas vraiment du hasard. La compagnie Fraissinet est en plein développement. Elle possède 26 navires et l'année précédente, elle a obtenu la concession du service postal pour les côtes de l'Afrique occidentale française. Elle embauche à qui mieux mieux. Martineau est un recruteur. La tête encore pleine des voyages au long cours de son alcoolique de père, des aventures si enivrantes de Jules Verne, Alexandre découvre la vie de marin. La dure vie de marin. Et elle l'est encore plus lorsqu'on n'a que 12 ans. Se lever, nettoyer, briquer, laver, servir, obéir, balayer, astiquer, suer, porter, obéir encore, magasiner, ranger, décrasser, dégraisser, récurer, et puis lessiver, obéir toujours. Se coucher au final totalement lessivé. Mais les rêves d'un marmot ne sont pas si faciles à émousser. Les souvenirs s'empilent.
On prenait la mer pour Oran, Dakar, Conakry, Cap Lopez, Petit Popo, Grand Popo, Sierra Leone et Libreville. Au retour, j'achetais 400 perroquets pour un pantalon bleu coûtant 3,50 francs. Presque tout l'équipage en avait acheté. Les oiseaux étaient logés dans une grande cage sous le ballast avant, au-dessus de celle du Bosco. Tous les jours, il y en avait 10, 20, 30 qui mouraient. Je les jetais à la mer et je les remplaçais par autant que je pouvais dans la cage du Bosco. Cela se vit et fut vertement réprimandé. À Marseille, il m'en restait 5, que je donnais à des voisins.
Un an après son embarquement sur le Tibet en 1892, Alexandre Jacob entre au service des messageries maritimes. Il travaille comme novice timonier à bord du Ville de la Ciotat, puis sur l'Armand Béhic. Comme sur le Tibet, il est chargé de l'entretien des appareils de navigation. Les deux bâtiments assurent la liaison Marseille-Nouméa via le canal de Suez, Djibouti, Mahé, Melbourne et Sydney. Ils peuvent transporter environ 350 passagers en cabine, dont à peu près 170 en première classe. Ces paquebots de 154 mètres de long sur 15 de large sont considérés comme deux des fleurons de la compagnie. Un ou deux ans plus tard, Alexandre Jacob est à bord du Guadiana, puis du Douro, deux navires de plus petite taille attachés à la liaison Londres-Marseille-Levant. Le gamin voit l'Angleterre, l'Égypte, la mer Noire. Mais comme il le rapportera plus tard...
J'ai vu le monde et il n'était pas beau.
Au cours de ces années, un grand nombre d'expériences édifiantes. Le spectateur angélique de l'univers qui se déroulait sous ses yeux a perdu ses illusions. Des trucs moches, comme le trafic d'esclaves que l'on embarque, que l'on cache à fond de cale pour le compte du sultan de Zanzibar et qui font la fortune d'un certain baron Hirsch. Tête baissée. Des trucs moches encore, comme ces clandestins juifs, arméniens et levantins portant leur sale misère à laver vers le rêve américain. Tête baissée. Go West. Des trucs moches toujours, comme ces bagnards évadés, puis repris et extradés à Sydney, enchaînés de tels des bêtes fauves et abattus par la liberté qui s'est évanouie. Tête baissée. Le jeune mousse peut converser avec eux et leur donner du tabac. Ce ne sont pas des bêtes fauves, ce sont des hommes. Juste des hommes, alors que ceux qui travaillent avec lui ne font que mater le cul des dames de première classe, s'astique le gourdin dans les hamacs le soir et mate son cul à lui lorsqu'en pleine mer, le rhum aidant, Lesbos vient leur ouvrir grand ses bras. T'es enculé de marin, tiens. Mais le jeune Éphèbe ne semble pas, en revanche, se plaindre des mœurs sexuelles, dissolues et pédophiles, de la si bonne, si morale et si fortunée société naviguant sur les paquebots des messageries maritimes. Eux ont la tête haute.
À 13 ans, j'étais novice timonier. Je pesais 52 kilos. Sur les grandes lignes Marseille-Nouméa, via Mahé, Adélaïde, Sydney, mon travail l'après-midi consistait à balayer. J'étais en quelque sorte kidnappée. Ça a commencé avec une Anglaise de 34 à 40 ans qui, sous prétexte de se faire porter un pliant dans sa cabine, m'a couvert de caresses, m'a mordu et le reste. J'en sortais flappy, mais content. Une autre, une Australienne, m'agrippa le lendemain, tant et si bien que j'étais devenu le chien-chien de ces dames. Et ce, pendant 2 ans, sur 2 paquebots différents. Tout ce monde érotique se fréquente, se raconte leurs exploits. Un soir, en allant passer la soirée à terre, j'ai eu envie de pisser. Je vais donc sur le wharf, le long du bord, face à un hublot. Béatitude ! Je vois sur une couchette supérieure les 2 filles du gouverneur Moutet, le même qui est mort dans l'explosion du Montpellier à la Martinique, qui, à ce moment, était nommé à Maurice. Je vois, dis-je, ces 2 filles, 17 et 19 ans, se suçaient en 69, complètement à poil. Elles se trémoussaient comme 2 serpents, soupirant, murmurant de légers cris. J'en avais le tricotin raide. Toujours les yeux collés au hublot, celle qui était dessus regarda dans ma direction. Nos regards se croisèrent. Je partis en vitesse, car le douanier, qui était à 40 mètres, soit sans raison apparente, soit intrigué par mon stationnement de 10 minutes, se dirigeait vers moi. Je franchis la grande grille du port et allai passer la soirée au quart. Cela se passait à Sydney. Le lendemain, en prenant mon car à 8 heures du soir, l'aînée, celle qui était au-dessus, me remit un billet me donnant rendez-vous à 10 heures entre les 2 cheminées. Je m'y rendis, y rencontrai les 2 sœurs qui me recommandèrent la discrétion. Nouveau rendez-vous, mais à l'heure du repos. En sortant, je me fais piquer par le second commandant qui, depuis quelque temps, avait dû observer mon manège. Sur sa demande, je lui répondis que je venais de faire ma commission.
« Tu fais trop de commissions !»
me dit-il. Et le lendemain matin, il me fit présenter d'office à la visite médicale. Le toubib, par ordre sans doute, me colla 8 jours d'infirmerie. Je n'ai jamais tant reçu de friandises. Ces dames ne m'oubliaient pas. Et ces dames, presque toutes protestantes, n'oubliaient jamais d'assister à l'office du pasteur en chantant les vertus de la fidélité conjugale. Il y en avait une, qui devait avoir de 60 à 65 ans, mais qui maquillait en paraissait 45. Elle me suçait tellement que j'en étais malade jusqu'au sein.
La vie dissolue des premières classes, rien de tel pour apprendre les rapports sociaux. Mais il faut aussi supporter vexation et brimade, pour 45 francs par mois. Oui, chef, bien, chef. Un leitmotiv déprimant, révoltant. Et le jeune mousse se forge un caractère trempé dans l'encre de la colère, vengeur et soucieux de justice. Est-ce alors pour cette raison qu'une fois débarqué à Sydney, il prend la grave décision de déserter ? Dans la ville australienne, il vit d'expédients, se fait cireur de chaussures, gardien de phoque, puis finit par se faire embaucher sur un baleinier commettant des actes de piraterie. Une première expédition lui aurait rapporté 800 francs, mais il n'assiste pas à l'abordage. En revanche, il participe à un second voyage au cours duquel il peut constater la violence sanglante des forbans qui massacrent sous ses yeux l'équipage du bateau pillé. Du sang. La mort et du sang. Malgré les 1000 francs qu'il gagne à cette occasion, l'adolescent prend la décision de déserter une seconde fois. Fort heureuse décision. Peu de temps après, les pirates se font prendre. La mort les attend. Tout aussi violente, au bout d'une corde. À Sydney, Alexandre Jacob embarque comme mousse sur un paquebot britannique, le Prince of Albert, qui le ramène en France et qu'il quitte, lui aussi, en douce à son arrivée.
J'étais déserteur d'un navire anglais que j'avais plaqué à Saint-Louis-du-Rhône. Mis en cabane, une cabane de policiers, je m'en évadais 1 heure après et je filais à la crèche.
Une fois rendu à Marseille, Alexandre Jacob est arrêté et jugé pour sa désertion australienne. Il sort libre du procès, trop jeune. Il repart en mer, mais le cabotage finit par remplacer la navigation hauturière. Il semble qu'il reprenne du service aux messageries. En 1895 ou 96, il est à bord de l'Alix, petit bâtiment de 38 mètres de long sur 5 de large qui cabote de Menton à Port-Vendres. Le Mousse aurait aussi navigué sur le Suzanne et Marie, également destinés à de courtes liaisons côtières. Ces voyages, plus courts que les précédents, n'en sont pas moins dangereux. À plusieurs occasions, tempêtes, collisions avec des cargos, le jeune marin manque d'y laisser sa peau. Après avoir sillonné une bonne partie des mers du globe, seules les liaisons transatlantiques n'entrent pas dans son curriculum vitae de marin long cours, Alexandre Jacob est contraint, courant en 1896, en raison de fièvre contractée lors de ses voyages, d'abandonner au grand dam de ses parents ses rêves ambitieux et de rester à terre.
Mes parents avaient l'intention de faire de moi un capitaine. Ils se renseignèrent à cet effet à l'école du commerce. Mais le programme des études me parut au-dessus de mes aptitudes. Je quittai la navigation pour raison de santé. Ma mère me plaça alors chez un imprimeur, rue Sainte-Claire, comme apprenti typographe.
Fini la navigation, il ne sera pas capitaine. À 17 ans, Alexandre Jacob se met à fréquenter étroitement les compagnons anarchistes marseillais et commence à théoriser les images et les souvenirs de son enfance. À théoriser ce monde qui n'est pas si beau que ça, finalement. Une nouvelle voie s'ouvre à lui. Une nouvelle vie commence.
Hé, t'as vu mon Jacobile ? Il prépare une bombe.
Comme dans la Ravachol et le père Lapurge.
Ouais, pas. Et ce qu'il faut dans sa boutique ?
Oh, n'oublie pas les manips des flics, alors, hein ?
Ouais. Dans la bonne ville de Marseille, dans la bonne ville de Marseille.
Il y a un jeune sans oseille, il y a un jeune sans oseille.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux.
Dansons la jacobole, vive le son, vive le son. Dansons la jacobole, vive le son de l'explosion.
Ben, c'est qu'il connaît ses classiques, le Bab, dis donc. Bon, je continue l'histoire.
Et je parie qu'elle sent la poudre verte.
Vive le son de l'explosion. 1897, Alexandre Jacob a 17 ans. Ça fait 3 ans maintenant que l'on n'entend plus rien. 3 ans que les lois scélérates, la guillotine et le bagne ont fait taire les ardeurs détonantes des propagandistes par le fait. Mort Ravachol, mort Vaillant, mort Henri, mort Caserio. Tous guillotinés entre 1892 et 1894. Il ne fait pas bon être anarchiste à la Belle Époque. Il ne fait pas bon crier ni Dieu ni maître. Il ne fait pas bon non plus de s'attaquer à la propriété privée, à ses symboles et à ses sectateurs. Il est écrit qu'il faut frapper un grand coup et rassurer une opinion publique terrorisée par 2 années de marmite à renversement, quitte à nourrir le martyrologue libertaire d'autant de saints céphalophores. La répression, qui culmine après l'assassinat du président Sadi Carnot, désorganise un mouvement qui ne l'a jamais vraiment été. Surveillance, flicage, arrestation, police partout chez les anars. Bertillon fait ses fiches. La répression remet aussi la question syndicale à l'ordre du jour. Dès octobre 1894, Émile Pouget recommande, de son exil londonien et dans les colonnes du Père Pénard, l'intégration dans les groupements ouvriers pour résister aux crapuleries patronales et préparer le terrain à la sociale. Pour autant, la marmite ne cède pas. La marmite ne cède pas le pas à la grève générale, universelle et émancipatrice, et nombreux sont ceux qui espèrent encore pouvoir exploser le vieux monde bourgeois. Mais à la propagande par le fait succède l'idée de la reprise individuelle. Vol, estampage et fausse monnaie deviennent des pratiques courantes chez beaucoup de compagnons. Loin d'être uni, le mouvement libertaire présente alors tous les traits de la fragmentation et au moment où Alexandre Jacob s'engage en anarchie, cette division semble plus un signe de vitalité qu'un symptôme de faiblesse provoqué par la vindicte policière et républicaine. Il en est ainsi à Marseille comme dans tous les grands foyers de l'idée libertaire. Paris, Lyon, Bordeaux. Alexandre Jacob l'a rencontré très tôt et elle a nourri sa révolte.
Alors que je naviguais, j'avais lu l'histoire des Girondins, de Lamartine, et 93 d'Hugo. Ce dernier ouvrage fait une forte impression sur moi, à tel point qu'à plus de 50 ans de distance, je me rappelle encore de ce passage où Simourdin évoque les 3 parasites à supprimer. Le prêtre, le soldat, le juge. Je lus aussi les Rougeon-Macquart de Zola. Il y avait dans ma famille, outre mon père, ma mère et ma grand-mère maternelle, un jeune homme de 4 ans, mon aîné, dont mon père était subrogé tuteur. Il travaillait comme tourneur sur métaux aux forges et aux chantiers. Il était anarchiste. J'allais avec lui aux soirées familiales libertaires, aux conférences. Il me fit lire plusieurs brochures de Pierre Kropotkine et les ai reclus, Malatesta, etc. Cette initiation à la doctrine anarchiste qui était en quelque sorte intermittente pendant que je naviguais, durant le désarmement du navire, devint plus assidue lorsque je restais à terre. Je fus donc initié à l'anarchie très jeune, entre 13 et 14 ans. Mais jusqu'à ma condamnation, rien ne me prédisposait à l'illégalisme.
Premier contact donc vers 1893. Les attentats anarchistes terrorisent la France et si peu Marseille. Si peu mais suffisamment. Explosion le 12 octobre 1892 chez le compagnon Camoin, rue d'Alger. L'anarchiste belge Powels est signalé dans la ville en décembre et un an plus tard, le 15 novembre 1893, l'hôtel du général commandant le 15e corps d'armée vole en éclats, rue d'Arménie. Le coupable court toujours. Arrestation et condamnation de l'anarchiste Boissy qui clame son innocence et son refus de la violence gratuite. On a trouvé des explosifs chez lui. 5 ans de prison. Les inscriptions au carnet B se multiplient et l'œil de la police reste grand ouvert. Ça continue pourtant. Léotier, le surineur, a fait des émules en province. 19 mai 1894, Célestin Natt marche sur le quai des Augustins. Il n'est pas anarchiste, mais il vient de se faire lourder. Comme un malpropre. La haine au ventre et un poignard bien tenu en main. Juste pour planter le premier bourgeois venu. Délit de sale gueule à contresens et 20 ans de travaux forcés. Le calme revient à Marseille, mais pas dans la tête d'Alexandre Jacob. Petit à petit, l'anarchie s'est installée en lui, et de sympathisant prépubère, le jeune homme est devenu un militant, un vrai militant. Un de ceux que l'on croise aux réunions, dans les arrières-salles des bistrots, aux conférences et aux soirées. Un de ceux qui connaissent leur répertoire par cœur, de Coutet à Payette, en passant par Clément, Martineau, Pouget et Potier. Un de ceux qui n'ont pas froid aux yeux, après avoir entendu Sébastien Faure déclamer contre les crimes de Dieu, le 29 mars 1897, aux établissements Rossi, devant une foule acquise et enthousiaste, Jacob et ses amis décident de se distraire un peu. Quelque temps plus tard, des cubénis et autres agenouillistes sortaient de deux églises de Marseille, les yeux rougis par la fumée s'échappant des boules de salpêtre enflammées que quelques malotrus de la jeunesse internationale. Une franche rigolade. Avec ce groupe, Jacob fait les 400 coups et déploie toute son énergie pour la cause. Il fréquente Marius Escartefigue, alias Jouvarin. Un beau parleur celui-là. Il y a aussi Ferdinand Calazel, Jules Chélan, Maurice Chaumel et Frédéric Gros. Tous rencontrés aux réunions ou au chagrin, comme Rapallo, le beauf à Jouvarin. Tous ne resteront pas des anards et il en est même des qui finiront bouffe-galette. En 1901, Jouvarin, devenu socialiste et redevenu Marius Escartefigue, est élu conseiller général du Var et 3 ans plus tard, maire de Toulon. Mais en 1897, tous joignent le geste à la parole et n'ont ni Dieu ni maître. La parole et la propagande par l'écrit, les concerts, les conférences et les ventes de brochures ont permis de recueillir assez d'argent pour faire paraître un journal, L'Agitateur. Le nom de cette feuille de propagande n'est pas choisi au hasard. Une première série de 12 numéros avait été publiée en 1892, puis une deuxième de 6 en 1893. La naissance de la troisième est annoncée aux camarades le 25 décembre 1896, lors d'une soirée à la brasserie de Noailles. Déclaration officielle est faite au parquet de Marseille, le 30 janvier, suivant, par un dénommé Édouard Roche. L'homme, très mal vu des services de police, sert de prête-nom. Le journal a son siège chez lui au 22 quai du Port et est imprimé rue Sainte. Cette troisième version de l'Agitateur connaît une existence éphémère. Aucun moyen financier. Les dons se font rares et les ventes ne permettent pas d'aller au-delà des deux parutions. En mars 1897, le journal, ouvertement individualiste, met la clé sous la porte. Fin de l'expérience. L'activité des compagnons de la jeunesse internationale ne s'arrête pas pour autant, la propagande continue. Mais la flicaille marseillaise vise à ce que l'ivraie soit bien séparée du bon grain et si besoin est, n'hésite pas à manipuler à l'occasion.
D'un naturel très confiant, je me laissais manœuvrer par un indicateur de police, qui après m'avoir suggéré de confectionner un explosif et m'en avoir fourni les éléments, me dénonça. Ce dernier me procura une brochure clandestine, l'indicateur anarchiste, contenant plusieurs formules d'explosifs.
Publié en 1891 par l'imprimerie internationale anarchiste à Londres, cet opuscule de 40 pages ne porte aucune signature. Et pour cause, Il s'agit d'un livre de recettes explosives extrêmement précises à destination de ceux et celles qui entendent pratiquer la lutte armée. L'ouvrage circule encore durant la deuxième moitié des années 1890 et il est facile à Leka, chef d'une bande de voleurs de la région retournée par la police et rencontrée dans les bars de Marseille, de suggérer le passage à l'acte à trois jeunes cerveaux exaltés nourris au mythe de Saint Ravachol. Boum, boum, boum. Le 4 août 1897, le président Félix Faure est en tournée en Italie et dans le midi de la France. La surveillance s'active autour de ce déplacement et se doit de rassurer une opinion publique toujours apeurée par les marmites qui ont effrayé tout l'Hexagone 3 ans auparavant. La veille au petit matin, la police marseillaise arrête l'apprenti typographe Alexandre Jacob et le mécanicien Émile Babot. Rapport de police.
Pour faire suite à mes rapports précédents concernant les données Babot et Jacob, anarchistes arrêtés sous l'inculpation de détention de matière entrant dans la composition des explosifs et de fabrication d'explosifs, j'ai l'honneur de faire connaître que de nouvelles indications recueillies ont établi qu'un troisième individu a pris part à cette fabrication. C'est l'anarchiste Rapolo, dénommé Rampal, ouvrier typographe, ancien directeur du journal L'Agitateur, demeurant à Marseille. Ce dernier aurait acheté les produits chimiques trouvés dans l'atelier de Babot. Monsieur le juge d'instruction, mis au courant de ces nouveaux renseignements, a fait extraire aujourd'hui Babot de la maison d'arrêt et l'a interrogé à ce sujet. Babot a déclaré que, en effet, celui qu'il avait précédemment désigné sous le prénom de Ferdinand n'est autre que Victor le typographe. Il a ajouté que ce dernier avait aidé Jacob à porter dans son atelier les matières et les objets qui y ont été découverts. Lorsque j'ai invité Jacob, dit Babot, à enlever ces objets, sinon je les détruirais, Victor m'a répondu avec son camarade : Ne fais pas cette blague, nous les avons achetés. Babot a d'autre part ajouté que dernièrement, Jacob et Victor ont voulu essayer la poudre qu'ils fabriquaient et que pour cela, ils en avaient mis une pincée dans un morceau de papier et l'avaient placée sur les rails des tramways. Mais aucune explosion ne se serait produite. En présence de ces révélations, monsieur le juge d'instruction vient de décerner un mandat d'amener contre Rapolo Victor.
Le cercle vicieux de l'infernale répression est enclenché. Rapolo arrêté, l'instruction judiciaire est vite bouclée. Les trois hommes passent devant le tribunal correctionnel de Marseille le 1er septembre, 6 mois de prison. La peine est purgée à Aix-en-Provence. Libération le 3 février 1898, rien n'a changé. Si, une chose, le petit Jacob n'est plus un inconnu et la police ne le lâche plus. Il n'est plus petit non plus, il est inscrit à l'état vert des anarchistes à surveiller. Étiquette « dangereux pour l'ordre public ». Lourd à porter. Il faut trouver du travail et le travail s'envole à chaque visite d'un inspecteur de police venu alerter le patron. Fini l'ouvrier typographe, le voilà commis de bureau chez Faure et Gauthier, fondeur de plomb au Chartreux. 5 mois. On l'arrête pour un vol commis sur son lieu de travail le 23 juin. Aucune preuve, aucune charge. Le dangereux Jacob est acquitté le 22 septembre. Il n'en a pas moins purgé 3 mois de prison préventive. Il n'en a pas moins perdu son travail.
Un camarade potard me conseilla de préparer le certificat de grammaire, n'étant pas bachelier, afin de pouvoir obtenir le diplôme de deuxième classe. Et à cet effet, il me fit entrer dans la pharmacie où il était employé comme préparateur pour y faire mon stage. Nouvelle immixtion de la police spéciale et je fus congédié. Il convient d'ajouter à toutes ces brimades que toutes les quinzaines, parfois toutes les semaines, la police spéciale, par ordre du préfet, opérait des perquisitions au domicile de mes parents où je résidais. Tout cela maigrit et me révolta. Et c'est ainsi que j'entrai en lutte ouverte contre l'autorité.
Le jeune homme habite chez ses parents au 47 de la rue Fontaine-Rouvière. Il bénéficie même de leur soutien. Son père lui a organisé une fête à sa libération en septembre 1898. Sa mère s'inquiète continuellement, mais elle approuve les actes de son rejeton contre les flagrantes et quotidiennes injustices qui lui sont faites. Il n'est pas de la trempe de ceux qui courbent les chines. Il aide ceux qui se battent. À Marseille, sa bataille est d'autant plus dure que l'équipe du Libertaire vient de passer 4 mois de mars à juin 1898 dans ses murs. Alexandre Jacob rencontre Sébastien Faure, bien sûr, mais aussi Henri Dor, François Prost ou encore Octave Jan. Il se lie d'amitié avec Charles Malato et Louis Mata. L'affaire Dreyfus bat son plein depuis que Zola a pondu son cinglant « J'accuse » dans les colonnes de l'Aurore le 13 janvier, et l'agitation gagne tout le pays. L'atmosphère est tendue, et les échanges de coups de poing avec les patriotes de la Ligue antisémite et autres factieux plus que fréquents. Pas d'apaisement militant. Antoine Sivocht, le premier martyr de l'anarchie, condamné aux travaux forcés pour l'attentat commis au restaurant lyonnais L'Assommoir en 1882, revient en France après 14 années passées dans l'enfer du bagne de Nouvelle-Calédonie. Jacob est de ceux qui viennent l'accueillir triomphalement à la descente de l'Armand Béic au petit matin du 23 février 1898. Jacob est encore de ceux qui animent la propagande anarchiste lors des élections législatives. « Voter, c'est abdiquer un peu », a dit Élisée Reclus. Et on se demande encore à la Ciotat, où Rostand se présente contre Antide Boyer, comment une urne peut se mettre à flamber toute seule. Les recettes explosives de l'indicateur anarchiste ont été bien apprises. Avec un peu de phosphore, on fait du feu feignant. Jacob est encore de ceux qui pensent que toutes ces actions ne sont pas suffisantes. D'autant moins suffisantes qu'à force de traîner les bars des bas-fonds de Marseille, qu'à force de prôner l'individualisme et de fréquenter tout un monde interlope, l'anarchisme se teinte peu à peu des vertus révolutionnaires de l'illégalisme. Dans les bistroquets des quartiers du Vieux-Port ou la Belle de Mai, les discussions vont bon train avec Arthur Rock qui l'initie aux joies du maniement de la pince Monseigneur. Avec des déclassés comme Joseph Ferrand qui vit d'expédients en particulier et illégaux. Avec Jules Clarençon, anarchiste violent et un brin agité du bocal, recherché pour vol et assassinat. Avec Rose Roux, ancienne compagne de Clarençon, devenue l'amante de Jacob, bien qu'elle soit plus âgée d'une quinzaine d'années. Avec Honoré Bonnefoy, revenu éclairé du Tonkin, antimilitariste et vivant lui aussi de trafic pas très net. Refaire le monde, oui. Toutes ces discussions autour de l'anarchie, toutes ces actions menées avec la jeunesse internationale, lui semblent insuffisantes, stériles même parfois. D'autant moins suffisante que la police est toujours prompte à faire sentir sa nauséeuse et délétère présence. D'autant moins suffisante, en tout cas, que le minot, qui n'en est plus vraiment un, a de l'énergie à revendre. D'autant moins suffisante que la colère grandit en lui. Il a 19 ans.
Chansons, on nous saoule sur les boissons. Du gars foncé dans une réchoir de la dernière cuite du mois. Y'a qu'un cocktail qui passe l'affaire. Il t'envoie direct en enfer. Il arrache aux sauvolières. C'est celui qu'on lance comme une pierre. Cocktail Molotov pour public,
explosé.
Cocktail Molotov pour public,
explosé.
Cocktail Molotov pour public,
explosé.
Cocktail Molotov pour public, explosé. Cocktail Molotov pour public, explosé. Cocktail Molotov pour public, explosé. Cocktail Molotov pour public, explosé.
Dans quelques éléments se compose maintenant avec un bon son de place en fond, un peu de sable, un bout de tissu inflammable. L'essence en grande quantité. De l'huile pour le faire durer. De l'engrais pour une explosion. Les voici remplis d'amission. Cocktail Molotov pour public.
Explosé.
Cocktail Molotov pour public.
Explosé.
Dans une manif, y'a rien d'hôtel, que le son du fin de cocktail. Ce petit mur de prix de mer, vogant dans les flammes de l'enfer. Dans sa grandiose danse voluptueuse, la bouteille se veut alentueuse. Le soleil rougit, bon horaire. Calcinant ainsi le quai des orfèvres.
Explosé,
cocktail, Molotov pour public.
Explosé,
cocktail, Molotov.
explosé, la mal ma fontaine molotov, mon peuple est explosé.
Pourquoi j'ai cambriolé ? Messieurs, vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit des cambriolages. De plus, j'ai incendié plusieurs hôtels et défendu ma liberté contre l'agression des agents du pouvoir. J'ai mis à nu toute mon existence de lutte, je la soumets comme un problème à vos intelligences. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon ni indulgence. Je ne sollicite pas ceux que je méprise et que je hais. Vous êtes les plus forts. Disposez de moi comme vous l'entendez, envoyez-moi au bagne, à l'échafaud, peu m'importe. Mais avant de nous séparer, laissez-moi vous dire un dernier mot. Puisque vous me reprochez surtout d'être un voleur, il est utile de définir ce qu'est le vol. À mon avis, le vol est un besoin de prendre que ressent tout homme pour satisfaire ses appétits. Or, ce besoin se manifeste en toute chose depuis les astres qui naissent et qui meurent, pareil à des êtres jusqu'à l'insecte qui évolue dans l'espace, si petit, si infime que nos yeux ont de la peine à le distinguer. La vie n'est que vol et massacre. Les plantes, les bêtes s'entre-dévorent pour subsister. L'un ne naît que pour servir de pâture à l'autre, malgré le degré de civilisation, de perfectibilité pour mieux dire, où il est arrivé. L'homme ne faillit pas à cette loi. Il ne peut s'y soustraire sous peine de mort. Il tue, et les plantes et les bêtes pour s'en nourrir. Roi des animaux, il est insatiable. Outre les objets alimentaires qui lui assurent la vie, l'homme se nourrit aussi d'air, d'eau et de lumière. Or, a-t-on jamais vu deux hommes se quereller, s'égorger pour le partage de ces aliments ? Pas que je sache. Cependant, ce sont les plus précieux, sans lesquels un homme ne peut vivre. On peut demeurer plusieurs jours sans absorber de substances pour lesquelles nous nous faisons esclaves. Peut-on en faire pour autant pour de l'air ? Pas même un quart d'heure. L'eau compte pour 3/4 du poids de notre organisme et il est indispensable pour entretenir l'élasticité de nos tissus. Sans la chaleur, sans le soleil, la vie serait tout à fait impossible. Or, tout homme prend, vole ses aliments. Lui en a fait-on un crime, un délit ? Non, certes. Alors pourquoi réserve-t-on le reste ? Parce que ce reste exige une dépense d'effort, une somme de travail. Mais le travail est le propre d'une société, c'est-à-dire l'association de tous les individus pour conquérir, avec peu d'effort, beaucoup de bien-être. Est-ce bien là l'image de ce qui existe ? Vos institutions sont-elles basées sur un tel mode d'organisation ? La vérité démontre le contraire. Plus un homme travaille, moins il gagne. Moins il produit, plus il bénéficie. Le mérite n'est donc pas considéré. Les audacieux seuls s'emparent du pouvoir et s'empressent de légaliser leur rapine. Du haut en bas de l'échelle sociale, tout n'est que friponnerie d'une part et idiote de l'autre. Comment voulez-vous que, pénétré de ces vérités, j'aie respecté un tel état des choses ? Un marchand d'alcool, un patron de bordel s'enrichit alors qu'un homme de génie va crever de misère sur un grabat d'hôpital. Le boulanger qui pétrit le pain en manque, le cordonnier qui confectionne des milliers de chaussures montre ses orteils, le tisserand qui fabrique des stocks de vêtements n'en a pas pour se couvrir, le maçon qui construit des châteaux et des palais manque d'air dans un infect taudis. Ceux qui produisent tout n'ont rien et ceux qui ne produisent rien ont tout. Un tel état des choses ne peut que produire l'antagonisme entre les classes laborieuses et les classes possédantes, c'est-à-dire feignantes. La lutte surgit et la haine porte ses coups. Vous appelez un homme voleur et bandit, vous appliquez contre lui les rigueurs de la loi sans vous demander s'il pouvait être autre chose. A-t-on jamais vu un rentier se faire cambrioleur ? J'avoue ne pas en connaître. Moi qui ne suis ni rentier ni propriétaire, qui ne suis qu'un homme ne possédant que ses bras et son cerveau pour assurer sa conservation, il m'a fallu tenir une autre conduite. La société ne m'accordait que 3 moyens d'existence, le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît. L'homme ne peut même pas se passer de travailler, ses muscles, son cerveau possèdent une somme d'énergie à dépenser. Ce qui m'a répugné, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire, c'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. En un mot, il m'a répugné de me livrer à la prostitution du travail. La mendicité, c'est l'avilissement, la négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le vol, c'est la restitution, la reprise de possession. Plutôt que d'être cloîtré dans une usine, comme dans un bagne, plutôt que de mendier ce à quoi j'avais droit, j'ai préféré m'insurger et combattre pied à pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs biens. Certes, Je conçois que vous auriez préféré que je me soumisse à vos lois. Couvrier docile, avachi, j'eusse créé des richesses en échange d'un salaire dérisoire, et lorsque, le corps usé et le cerveau abêti, je m'en fusse crevé au coin d'une rue. Alors vous ne m'appelleriez pas bandit cynique, mais honnête ouvrier. Usant de la flatterie, vous m'auriez accordé la médaille du travail. Les prêtres promettent un paradis à leurs dupes. Vous, vous êtes abstrait, vous leur offrez un chiffon de papier. Je vous remercie beaucoup de tant de bonté, de tant de gratitude, messieurs. Je préfère être un cynique conscient de mes droits qu'un automate, qu'une cariatide. Dès que j'eus possession de ma conscience, je me livrai au vol sans aucun scrupule. Je ne coupe pas dans votre prétendue morale qui prône le respect de la propriété comme une vertu, alors qu'en réalité il n'y a pas de pire voleur que les propriétaires. Estimez-vous heureux, messieurs, que ce préjugé ait pris racine dans le peuple, car c'est là votre meilleur gendarme. Connaissant l'impuissance de la loi, de la force pour mieux dire, vous en avez fait le plus solide de vos protecteurs. Mais prenez garde, tout n'a qu'un temps, tout ce qui est construit, édifié par la ruse et par la ruse et la force peuvent le démolir. Le peuple évolue tous les jours. Voyez-vous qu'instruits de ces vérités, conscients de leurs droits, tous les meurs de faim, tous les gueux, en un mot, toutes vos victimes, s'armant d'une pince, monseigneur, à y livrer l'assaut à vos demeures pour reprendre leurs richesses qu'ils ont créées et que vous avez volées. Croyez-vous qu'ils en seraient plus malheureux ? J'ai l'idée du contraire. S'ils y réfléchissaient bien, ils préféreraient courir tous les risques plutôt que de vous engraisser en gémissant dans la misère. La prison, le bagne, l'échafaud, dira-t-on. Mais que sont ces perspectives en comparaison d'une vie d'abruti, faite de toutes les souffrances ? Le mineur qui dispute son pain aux entrailles de la terre, ne voyant jamais luire le soleil, peut périr d'un instant à l'autre victime d'une explosion. Le couvreur qui pérégrine sur les toitures peut faire une chute et se réduire en miettes. Le marin connaît tous les jours son départ, mais il ignore s'il reviendra au port. Bon nombre d'autres ouvriers contractent des maladies fatales dans l'exercice de leur métier, s'épuisent, s'empoisonnent, se tuent à créer pour vous. Il n'est pas jusqu'aux gendarmes, aux policiers, vos valets, qui pour un os que vous leur donnez à manger, trouvent parfois la mort dans la lutte qu'ils entreprennent contre vos ennemis. Entêté dans vos égoïsmes étroits, vous demeurez sceptique à l'égard de cette vision, n'est-ce pas ? Le peuple a peur, semblez-vous dire. Nous le gouvernons par la crainte et de la répression. S'il crie, nous le jetterons en prison. S'il bronche, nous le déporterons au bagne. S'il agit, nous le guillotinerons. Mauvais calcul, messieurs, croyez-moi. Les peines que vous infligerez ne sont pas un remède contre les actes de révolte. La répression, bien loin d'être un remède, voire même un palliatif, n'est qu'une aggravation du mal. Les mesures coercitives ne peuvent que semer la haine et la vengeance. C'est un cycle fatal. Du reste, depuis que vous tranchez des têtes, depuis que vous peuplez les prisons et les bagnes, avez-vous empêché la haine de se manifester ? Allez, dites, répondez ! Les faits démontrent votre impuissance. Pour ma part, je savais pertinemment que ma conduite ne pouvait avoir d'autre issue que le bagne ou l'échafaud. Vous devez voir que ce n'est pas ce qui m'a empêché d'agir. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain de livre, mais une question de principe, de droit. J'ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d'homme, que de me faire l'artisan de la fortune d'un maître. En termes plus crus, sans euphémisme, j'ai préféré être voleur que volé. Certes, moi aussi je réprouve le fait par lequel un homme s'empare violemment du fruit du labeur d'autrui. Mais c'est précisément pour cela que je fais la guerre aux riches, voleur du bien des pauvres. Moi aussi, je voudrais vivre dans une société où le vol serait banni. Je n'approuve et n'ai usé du vol que comme moyen de révolte propre à combattre le plus inique de tous les vols, la propriété individuelle. Pour détruire un effet, il faut au préalable en détruire la cause. S'il y a vol, ce n'est que parce qu'il y a abondance d'une part et disette de l'autre, que parce que tout n'appartient qu'à quelques-uns. La lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leur joie et leur peine, leurs travaux et leurs richesses, que lorsque tout appartiendra à tous. Anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution, vienne l'anarchie. Pour Germinal, à vous, à la cause. Alexandre Jacob.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, c'était lu, approuvé. Donc, le livre qu'on vous a lu ce soir, c'est Alexandre Marius Jacob, voleur et anarchiste. Il a été écrit par Jean-Marc Delpech, Et très bien renseigné, très bien documenté, avec plein de notes de bas de page et des détails croustillants souvent. Voilà, c'est paru aux éditions Nada, des éditions, une petite maison d'édition parisienne, et c'est paru très récemment puisque c'est marqué Nada Édition 2015, donc c'était dans la première moitié de cette année très certainement. Voilà. Eh bien, lui a prouvé retrouve une deuxième voix, c'est pas mal. Et du coup, bien voilà, si vous voulez nous réécouter, vous pouvez le faire, donc réécouter nos podcasts, les anciennes émissions, sur le site internet de Canal Sud ou le nôtre. Donc celui de Canal Sud, c'est www.canalsud.net. Le blog que l'on tient à jour contre vents et marées, si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien, c'est quoi ? C'est luapprouvé.noblogs.org. Je crois que c'est ça. noblogs.org, tout attaché sans accent. Si vous souhaitez nous joindre, eh bien, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, lui a approuvé tout attaché sans accent, @guyad.org, guyad, guyad.org. Et si vous souhaitez nous écrire des lettres, eh bien, c'est très bien. Nous serions ravis. Je crois qu'on n'a jamais reçu de vraies lettres d'auditeurs. Allez-y, allez-y.
Parce qu'on a reçu des fausses lettres.
Non, mais des factures peut-être. Alors l'adresse, c'est émission lue et approuvée, Radio Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400, c'est à Toulouse. Voilà, plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Oui, si vous voulez venir lire ou bien si vous souhaitez nous proposer des lectures, vous nous contactez par les biais que je viens d'indiquer et puis on serait ravis aussi. Bonne soirée à toutes et à tous, chaque mercredi donc 23h30 minuit sur 30. Canal Sud.
Yes, bonne soirée.
Salut.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.